mais aujourd'hui, je voudrais parler du miracle eucharistique de Lanciano brièvement, mais surtout de quelques autres qui sont, à mon sens, plus importants encore. Je regardais ces jours-ci dans le dictionnaire de théologie fondamentale. C'est un très beau dictionnaire qui a été publié sous la direction d'un Québécois, le père René Latourelle, jésuite, qui a été professeur à la Grégorienne à Rome pendant des années. Et il a dirigé ce dictionnaire, il a rédigé aussi des articles, en particulier un article sur le miracle. De nombreuses pages sur le miracle, et il dit au tout début quelque chose de fondamental, que je crois, un dictionnaire de théologie fondamentale, quelque chose de fondamental, il dit « Toute réflexion sur le miracle ne peut avoir d'autre point de référence que les miracles de Jésus, à savoir les signes fondateurs du christianisme. » Puis il ajoute, sans le Christ et sans le salut qu'il apporte, les miracles n'ont aucun sens. Il faut donc commencer par l'expliquant et non par l'expliqué. C'est-à-dire, les miracles de Jésus sont les archétypes de tout vrai miracle et la clé d'intelligibilité, si vous voulez, de compréhension de tous les autres. Notamment ceux des sanctuaires, voyez-vous, comme le sanctuaire de Lanciano, et des procès de canonisation. Ils sont les miracles à la source et dans leur milieu nourricier. Les signes, oui, les signes expressifs, dit le père René Latourelle, de la grande présence, avec un P majuscule parmi nous, du Dieu vivant et trois fois saint. J'aime bien les textes du père René Latourelle. Il y a toujours un contenu mystique, spirituel, profond. C'est un théologien complet, on dirait. Alors, il y a, évidemment, tous ces miracles du Très-Saint-Sacrement vers lesquels converge, au fond, notre foi ici sur Terre. Mais qui peut, mis à part quelques exceptions, se targuer d'être véritablement et totalement croyant, comme le dit le père Ladame dans un ouvrage qui est intitulé « Prodiges eucharistiques » paru aux éditions France Empire il y a déjà de nombreuses années, 1981. Les prodiges eucharistiques du père Ladame. Et être vraiment croyant. Qui peut prétendre posséder une foi qui est pure, claire? Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de doute. Nous sommes trop souvent, c'est Claudel qui dit ça, de pauvres douteurs de doute, des lâches, des hésitants. Et au lieu de pénétrer à l'intérieur du voile, nous butons sur le mystère. C'est comme sur une pierre d'achoppement, on dirait. C'est pour dissiper notre peu de foi que le Christ, qui a bien pitié de nous, nous aide par des miracles. Moi, c'est mon avis, et je vous en ai raconté souvent des miracles, et je vais vous en raconter aujourd'hui. Jésus dit bien, les œuvres que je fais, c'est lui qui fait les miracles, les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Fiez-vous à ces œuvres pour savoir que le Père est en moi, et moi dans le Père. C'est ce qu'il déclare aux Juifs, quand il est venu sur terre, lui qui était juif. Pour ses contemporains, le Sauveur a multiplié les prodiges, on le sait. Et on ne doit pas négliger et dédaigner les prodiges eucharistiques par lesquels le Seigneur nous manifeste qu'au-delà des espèces sacramentelles du pain et du vin, là, après avoir évacué la substance du pain et du vin, il y a réellement substitué la sienne propre, sa substance. C'est notre foi. Et nous en avons, je dirais, des preuves. Les rejeter ou n'en pas tenir compte, ce serait mépriser, il me semble, celui qui est plein de miséricorde, qui prend pitié de notre misère, hein, parce que Dieu permet un miracle eucharistique, est-ce qu'il ne révèle pas sa puissance? Le Seigneur agit dans ce temps-là et le Père glorifie son Fils pour que son Fils le glorifie. Et avant d'examiner quelques faits inexplicables, d'origine surnaturelle, il faut savoir d'abord s'ils sont authentiques. Lorsque il y a surtout des reliques du miracle, par exemple des hosties changées en chair, des corporaux. Les corporaux, c'est comme une petite nappe que l'on plie, là, sur laquelle les prêtres disent la messe sur l'autel. Les corporaux tachés de sang, Eh bien, on possède, dans ce temps-là, des objets les plus intéressants, capables d'être examinés scientifiquement et voire datés, mais ils peuvent pas toujours, cependant, être analysés et sans les détruire. Mais chaque fois que l'on peut faire un examen critique, il faut jamais redouter de l'entreprendre, il faut le faire. Ça a été fait à l'occasion du fameux miracle de Lanciano, hein. Mais à propos du miracle de Lanciano, en Italie, là, dans les Abruzzes, dans l'Italie centrale, les savants ont bien pu nous dire que la chair miraculeuse était une chair humaine véritable. Mais ils pouvaient affirmer en rien que c'était la chair du Christ. Faut pas l'oublier, hein. L'investigation scientifique demeure donc limitée. Mais il y a d'autres miracles eucharistiques, comme celui de Favernet. C'est en Franche-Comté, ça. Plusieurs siècles plus tard. Oh, il y a déjà à peu près 6-7 siècles, ça. Il y a eu 10 000 témoins, hein, dont des protestants qui étaient prévenus contre la présence réelle et qui se sont convertis. Non, ça fait pas 7-8 siècles, c'est après la réforme protestante. Mais c'est tout de même étonnant, je vais vous en parler probablement tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de Lanciano, nous avons le récit de ce qui s'est passé, et c'est très simple. C'est un prêtre qui hésite devant la présence réelle, il a des doutes, et le pain et le vin se changent en la chair et au sang de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les objets ont été conservés depuis ce temps-là, et on a des doutes là-dessus. Je peux vous raconter un peu le récit. J'ai ça ici. Vous savez, les divers miracles eucharistiques transmis par la tradition ont pour trait commun, là, ces genres de miracles-là, on peut dire la transmutation après que le prêtre célèbre la messe et prononce les paroles de la consécration. Bien, les espèces du pain et du vin se transforment en vraie chair et en vrai sang, dit-on, et dans des quantités, selon des modalités qui varient selon les cas. Bon, qu'est-ce qui est arrivé à Lanciano? Un jour, non identifié au 8e siècle, dans une église, donc, de Lanciano, un moine basilien célébrait la Sainte Messe en rite latin. Il était de rite oriental, mais célébrait la messe en rite latin. Ça se faisait dans ce temps-là, avant la séparation des églises orientales et occidentales, c'est-à-dire avant ce qu'on appelle aujourd'hui l'orthodoxie, puis l'église latine, la nôtre, là. Alors, il a donc célébré la messe avec une hostie de pain azime, c'est-à-dire ce pain sans levain, comme nos hosties. Et après la double consécration, il s'est pris à douter de la présence réelle de Jésus dans le sacrement, ou peut-être y a-t-il été induit, sans faute de sa part, peut-être que ça lui est passé par l'esprit, tout simplement. Et toujours est-il qu'il a vu soudain l'hostie se changer en chair et le vin se changer en sang, dit-on. Et le précieux sang, par la suite, en se coagulant, a formé 5 petits cailloux irréguliers de formes et de tailles diverses. Et la première réaction du moine, basilien, là, stupéfait et bouleversé, a été de chercher à cacher ce qui venait de se passer, mais il a maîtrisé son émotion, hein. Il a manifesté le prodige aux fidèles, qui sont devenus ainsi les témoins oculaires, puis ils en ont répandu la nouvelle dans toute la ville. C'est ça le récit du miracle, où on peut pas trouver d'absurdité, ça semble tout à fait clair. Bon, 12 siècles après l'événement, les saintes reliques sont restées pratiquement intactes, et puis le sang contenu dans le calice a une couleur terreuse, tendant au jaune d'ocre. Se compose de 5 petits cailloux, comme je vous ai dit, dont le plus gros est constitué de 2 fragments distincts, soudés l'un à l'autre. Alors, je vous fais un petit détail. Leur poids total est de 16 grammes et 505 milligrammes. On peut les répartir ainsi, là, 8 grammes pour l'un, 2 grammes et demi pour l'autre, etc. Et la poussière de sang. Mais si l'on passe l'aspect phénoménologique du prodige à son aspect là, substantiel, on peut te poser bien des problèmes. Est-ce que c'est vraiment encore la présence réelle ou bien si c'est disparu? Alors, il y a eu des disputes entre théologiens à ce sujet. Et ce n'est pas terminé. Mais en 1970, le 10 novembre, on a fait une enquête sérieuse. Et quand on est... Après avoir examiné le tissu de la chair, un professeur a exprimé la crainte de ne pouvoir trouver, au cours des analyses de laboratoire, d'éléments valables permettant d'arriver à des conclusions scientifiques, parce que le tissu de la chair risque d'être désormais dépourvu de tout élément d'identification. Ça renverse bien des rumeurs qui courent autour de ce miracle que l'on considère comme très important dans certains milieux. Et ensuite, quant au sang, là, le professeur Linoli s'était forcé de prélever quelques fragments à l'intérieur des caillots dont je vous ai parlé, espérant qu'ils seraient plus riches en éléments, puis identifiables. Et auparavant, il a voulu contrôler le poids des 5 caillots de sang. Et comme lors de la reconnaissance scientifique de 1886, la pesée a donné un total de 16 grammes et 505 milligrammes, comme je vous ai dit, puis le phénomène de l'identité de poids entre chaque caillot, puis leur ensemble, qui avait été affirmé par l'archevêque Rodriguez en 1574, puis relaté dans l'inscription gravée en 1636 sur le bloc de marbre, imaginez, situé près de l'hôtel du Miracle dans l'église de Saint-François, mais ça n'a pas été constaté. C'était une rumeur. Comme déjà, il n'avait pas été constaté lors de la reconnaissance de 1886, alors ça renverse bien des illusions à ce sujet, et c'est pourquoi je préférerais passer à autre chose, car même si le savant qui a écrit le livre Le Miracle de Lanciano, qui est Bruno Sammaciccia, bien les résultats, disait-il, lui, de ses examens, en particulier en ce qui concerne la nature de la chair, rendent peu plausible l'hypothèse d'un faux opéré par les siècles passés. Et il est plutôt porté à y croire, mais il y a énormément de doutes autour du miracle de Lanciano. Mais il n'y en a pas autour d'autres miracles. Mais voici maintenant le miracle de Faverney, en 1608. Et c'est absolument phénoménal. Faverney, c'est en Haute-Saône, comme on appelle les différentes régions de la France maintenant, et possède une abbaye bénédictine alors qui avait été fondée au 8e siècle. Et en 1608, cette abbaye, qui est en pleine décadence, ne compte que 6 religieux et 2 novices. Au nom de l'abbé commendataire absent, l'abbé commendataire, c'est l'abbé qui reçoit les profits de l'abbaye et qui est au fond nommé là par le roi et qui abuse de son titre. L'abbé de Rancé était un abbé commendataire qui s'est converti et qui a réformé les cisterciens, qui en a fait ce qu'on appelle communément les trappistes. Alors l'abbé commendataire est absent, Jean d'Arros, évêque de Lausanne, c'est le prieur... Je donne les noms parce que c'est très scientifique tout ça. Le prieur Jean Sarron, un vieillard qui dirige la communauté. Mais est-ce qu'on peut encore parler de moines? Comment vivent ces moines? Bien, ils n'ont jamais lu la règle de Saint-Benoît, qu'ils sont supposés suivre. Ils vivent dans la paresse et la plus totale tiédeur spirituelle. Dans l'église abbasside historique, ce que je vous ai dit, c'est pas pour parler contre l'église. Il y a des gens qui s'imaginent que je parle quand je raconte ça. Bon, c'était comme ça. Dans l'église abbatiale, les ornements, missels, vases sacrés, qui demeurent encore, tombent presque en poussière, tellement c'est épouvantable. Et quant à la théologie, ces moines-là l'ignorent. Ils s'y intéressent pas du tout à la théologie. Il n'existe d'ailleurs aucune bibliothèque dans l'abbaye. Inconcevable. Or, ce samedi 24 mai, veille de la Pentecôte, 1608, comme chaque année, en prévision d'un pèlerinage qui amènera des foules le lendemain et les 2 jours suivants, dont Jean Garnier, bénédictin, a préparé dans le transept devant la grille du cœur, du côté de l'Évangile, à gauche, un modeste petit reposoir, une simple table, couverte de nappes, et surmontée d'un tabernacle dont la base est entablée, comme on dit, d'une pierre sacrée. Revêtu de corporaux, de petites nappes sacrées, là, pour recevoir l'ostensoir, Mostensoir, vous savez tout ce que c'est, j'imagine. Cet objet un peu en forme de soleil dans lequel on met une hostie consacrée, le corps du Christ. Au-dessus de l'ensemble, un baldaquin accroché à la grille. Derrière l'autel improvisé, un fond satin rouge. Pas de fleurs ni de verdure. Deux cierges piqués sur des chandeliers métal. Deux veilleuses à l'huile, pour la nuit, posées sur deux chandeliers d'étain. À la nappe du reposoir, on a accroché le bref, vous savez, un texte de Clément VIII accordant des indulgences, ainsi que la lettre d'un évêque en autorisant la publication. Avant les premières vêpres de la Pentecôte, le prieur, dont Saron, expose le Saint-Sacrement. Il utilise un ostensoir d'argent qui est conservé, on l'a toujours, qui sert aussi de reliquaire, mais qui pèse environ 300 grammes. Il y a des photos de ça. Au-dessus du pied, à 8 pans, en effet, deux branches supportent un tube de cristal, fermé à une extrémité par un bouchon de papier de soie, et renfermant un fragment d'os d'un doigt, dit-on, de Sainte Agathe. Et au-dessus de la jonction des deux branches, la lunule, cette espèce de petit bracelet avec du verre, surmonté d'une petite croix qui contient deux hosties consacrées à la messe du matin, parce qu'on n'en avait pas une assez grande, on en a mis deux. Jusque vers 8 heures du soir, l'adoration se prolonge, et Don Garnier, le bénédictin, éteint alors les cierges. Il ferme l'église. Il laisse allumer les veilleuses. La garde devant le reposoir ne reviendra que le lendemain matin avec de nombreux fidèles. Rien ne se passe le jour de la Pentecôte, et le soir, comme la veille, le religieux sacristain renouvelle l'huile des veilleuses. Le lundi matin, vers 3 heures, le matin commence de bonne heure dans ce temps-là, il revient à l'abbatiale, il la trouve pleine de fumée, puis à la place du reposoir, il n'y a plus qu'un amas de cendres. Personne n'était témoin de l'incendie, sauf indirectement un monsieur Thiébaut Brenier, qui, partant un peu après minuit, ce 26 mai, à la foire de Conflans, a aperçu de l'extérieur des lueurs insolites illuminant l'église, mais il a pensé que c'était les lampes qui brûlaient devant Saint-Sacrement, puis il n'a pas songé à donner l'alarme. Affolé de... sans même chercher à examiner ce qui reste du reposoir, Don Garnier, le bénédictin, là, va réveiller les autres moines, et de même les gens du village, puis il revient avec le frère Brenier, un novice, sur les lieux du sinistre. Après avoir envoyé l'autre novice, le jeune frère Gabriel Hudelot, âgé de 13 ans, c'était jeune, hein, pour chercher des pincettes afin de fouiller les décombres et retrouver peut-être le reliquaire ostensoir, mais dans l'obscurité, puis dans la fumée qui se dégage encore des étoffes qui achèvent de se consumer, il n'aperçoit rien. Et soudain, pourtant, l'adolescent pousse un cri « Miracle !» Et de son doigt, il désigne l'ostensoir qui est suspendu dans les airs, à la place même où il avait été exposé, mais à présent sans support. Vous direz que c'est pas possible. Je continue quand même. On l'aperçoit légèrement incliné, l'ostensoir, et le bras gauche de la petite croix qui le surmonte semble toucher un des barreaux de la grille. Ah ah! Là-dessus arrivent les autres moines et les habitants du pays, puis constatent les conséquences de l'incendie. De la table, il ne reste que les 4 pieds endommagés, puis un des chandeliers est à moitié fondu, un autre brisé en 3 morceaux. La pierre d'autel sur laquelle reposait l'ostensoir éclate en 3 fragments quand Don Noiraud veut la retirer, etc. Et en revanche, la bulle pontificale est restée intacte, de même que la lettre de l'évêque. Seul le seau de cire a coulé. Le reliquaire ostensoir demeure. Le tube de cristal contenant la relique de Sainte Agathe est intact, et le bouchon de papier qui le fermait à une extrémité n'a pas été consumé. Il est toujours là, bouchon de papier. Et surtout, surtout, les hosties consacrées sont là, comme pendues entre ciel et terre, c'est le terme qu'on utilise, pendu à cette époque. Car on le vérifie, il ne s'appuie pas au barreau de la grille, non, non, d'ailleurs s'il avait pu s'y accrocher, il se serait incliné non pas vers la gauche, mais vers la droite. Plus tard, les délégués de l'archevêque, lors de l'enquête canonique, s'assureront que la grille n'était nullement aimantée. Ils vont loin, déjà, l'esprit scientifique, en 1608, c'est assez surprenant, hein? Les gens qui bientôt se bousculeront pour voir, qui ébranleront cette barrière au point de la faire chanceler, constateront mieux encore que rien, absolument rien, ne retient le vase sacré immobile dans les airs. Combien de temps durera le prodige? Le prieur songe qu'il finira bien par cesser, et en prévision, sur les quatre pieds qui restent de la table, il fait poser une planche, surmontée d'un corporal, petite nappe, et de quelques cierges. Après le chant des matines, très tôt le matin, tandis que le curé de Favernet mène sa propre enquête, les moines bénédictins tiennent conseil et décident d'envoyer Don Noireau chercher les capucins de Vesoul, c'est pas loin ça, quelques kilomètres, renommés pour leur science et leur piété, afin, dit-il, d'avoir consolation sur ce qu'ils devraient faire. Mais chemin faisant, le moine raconte, à qui veut l'entendre, ce qui est advenu si bien qu'aux pèlerins accourus pour gagner l'indulgence s'ajouteront tout le jour quantité de curieux qui cherchent à voir le prodige. Il y en a 30 000 au total qui vont le voir. Hein. L'après-midi, ce sera même une véritable cohue dans l'abbatiale, envahissant jusqu'au cœur des moines. Parmi eux, des sceptiques, des libertins, c'est-à-dire des gens de mauvaise conduite, quoi. Et ceux qu'on appelle des hérétiques, c'est-à-dire des protestants. Les capucins qui cheminent à pied n'arriveront qu'une heure avant les vêpres. Et tout aussitôt commenceront leur enquête. Le soir venu, la foule est toujours aussi dense. Et cette nuit-là, le Saint-Sacrement ne manquera pas d'adorateurs, hein? Et quant à l'ostensoir, il n'a toujours pas bougé. Et là, le mardi 27 mai 1608, les bénédictins et les capucins rédigent un rapport sur les faits à l'intention de l'archevêque de Besançon. À l'église abbatiale, après la messe conventuelle des moines, d'autres messes se succèdent au maître-autel. Elles sont célébrées par des curés de paroisse avoisinant Favernet. Et vers 10 heures, c'est le tour de messire Aubry, curé de Menoux. Or, après le Sanctus, un des cierges qui brûlait à la droite du reliquaire ostensoir s'éteint. Don Garnier le rallume, mais le flambeau s'éteint une deuxième puis une troisième fois. Et là, les gens tournent alors les yeux de ce côté. De plus, au moment où messire Aubry élève l'hostie qu'il vient de consacrer, on entend comme le son d'une lame d'argent que l'on ferait vibrer, et de nouveau l'attention de la foule est attirée, et celle-ci voit alors l'ostensoir demeurer jusqu'ici incliné, se redresser, puis, tandis qu'à l'autel le prêtre abaisse l'hostie, il se coule doucement, dit-on, jusque sur le corporal, tout aussi proprement que s'il y fût révérément posé par un homme d'église, dit le texte ancien. Et le prodige a pris fin, après avoir duré 33 heures, la foule réagit aussitôt par des acclamations, et seul le curé de Menoux, qui célèbre la messe, reste calme et achève tranquillement sa messe, et le gardien des capucins, le supérieur des capucins, si vous voulez, examine alors l'ostensoir, la montrance, et constate qu'en aucune de ses parties, elle ne porte trace d'offense et d'altération, dit le vieux texte. Dès le surlendemain de ce miracle, de cette messe, là où l'ostensoir s'est déposé par lui-même, jeudi 29 mai 1608, là, commence l'enquête canonique sur le miracle. On enregistre alors 54 témoignages, tous concordants. Il n'y a pas d'erreur. On aurait pu interroger beaucoup d'autres personnes, car ce sont, je le répète, des milliers de gens qui ont constaté le fait prodigieux. Mais on s'est borné à un nombre de témoins jugés suffisants. Et parmi eux, il y a 8 religieux de Favernet, là, des bénédictins, et les 3 capucins de Vesoul, des hommes instruits, les curés de Favernet et de Menoux, et aussi des paysans, des ouvriers, des bourgeois et des magistrats. Le 10 juillet suivant, donc un mois et demi plus tard presque, l'archevêque déclare authentique le miracle. 2 semaines plus tard, son mandement est lu dans tout le diocèse. Il l'est, à Favernet même, par l'archevêque de Corinthe, coadjuteur de Monseigneur de Rie, au milieu de la joie populaire. Au mois de septembre, le 13, de la même année, l'archevêque de Rhodes, nonce à Bruxelles, l'ambassadeur du pape à Bruxelles, quoi, fait connaître au pape Paul V l'événement extraordinaire survenu en Franche-Comté. C'est dans l'est de la France, hein? aussi prodigieuses que le miracle humain ont été ses conséquences? En premier lieu, c'était l'affermissement de la foi catholique des populations puis la transformation du monastère, si décadent. Le feu avait respecté en même temps la Sainte Eucharistie, les reliques et les textes, là, qu'on appelle les bulles d'indulgence, toutes choses controversées par les protestants. Et l'événement s'était également produit dans une église monacale, une église de monastère, dédiée à Marie, alors que les mêmes protestants s'en prenaient aux ordres religieux puis au culte de la Vierge à cette époque. Heureusement, les choses ont bien changé. La portée apologétique du miracle était donc considérable. Aussi, les protestants ont stoppé leur façon de parler des catholiques en Franche-Comté. Plusieurs huguenots, comme on les appelle les protestants là-bas, se sont convertis. Même après avoir constaté les faits là, par eux-mêmes, c'est là qu'ils se sont convertis. Ainsi, Nicolas de Cambredon, seigneur de Passavant, et l'orfèvre de Montbéliard François Vuillard, qui ont abjuré avec toute leur famille et sont revenus dans l'Église catholique. Ce dernier était rentré plus de 30 fois à l'église pour voir et revoir le miracle, tellement il était émerveillé. 30 fois. Finalement, il est tombé à genoux, parce que ça lui a pris du temps à se convertir. Puis là, il s'est jeté à genoux pour, dit-il, adorer Dieu que je voyais en l'air vaincre les flammes. Quant à l'abbaye de Faverney, elle sera réformée en 1613, quelques années plus tard. 5 ans plus tard, les postulants vont y affluer. Puis enfin, vont naître un peu partout, ils vont se renouveler des confréries du Saint-Sacrement. Ça va entraîner leurs membres à une vie spirituelle intense, qui va les préserver du jansénisme, qui est une chose plutôt pénible. Et nous allons maintenant passer à un autre miracle eucharistique, un des plus extraordinaires de tous les temps. Vous savez, à Lourdes, la Vierge est apparue dans la grotte de Massabielle à Bernadette Soubirous. L'eau est à l'origine des premiers miracles. Mais par la suite, un très grand nombre se sont produits alors que le malade, étendu sur une civière, prie devant la grotte, là. Ou bien alors qu'il suit l'office, ou bien encore, surtout, quand il assiste à ce lent déroulement de la procession eucharistique. C'est un prêtre qui porte une chape, c'est-à-dire un grand manteau, là, magnifique, avec un voile sur les épaules, puis avec ce voile, il tient un ostensoir, puis il bénit la foule, et là, c'est comme, c'est le Christ lui-même qui passe devant les malades. Puis dans ce dernier cas de la procession eucharistique, c'est presque toujours à l'instant où l'ostensoir passe devant lui que le grand malade, qui est paralysé, se dresse, comme frappé par une décharge électrique. Il se sent guéri, il se proclame guéri. C'est quelque chose d'absolument phénoménal. Eh bien, le 17 décembre 1899, 100e anniversaire bientôt, le train part de Bordeaux vers Paris. À travers la campagne, il y a de la neige, et non loin d'Angoulême, le train est immobilisé par une panne. L'express qui le suit le frappe à 80 km à l'heure. Le fourgon postal qui est à la queue du train est pulvérisé, puis ses 4 occupants sont projetés hors de la voie. Il est 00h30 et l'une des victimes, Gabriel Gargam, un athée, qui est commis des postes, s'est retrouvé jusqu'à 7h du matin dans un champ à plus de 20 mètres de la ligne de chemin de fer, à demi enfoui dans la neige, presque mourant. Il est transporté à l'hôpital d'Angoulême. Il a des plaies sur tout le corps, une clavicule brisée, et de cela, les médecins viennent aisément à bout, mais Gargam est atteint d'une paralysie générale des membres inférieurs et même de son appareil digestif. Il ne peut plus digérer. On doit le nourrir à la sonde. Cet homme qui pesait 80 kilos, maigri, atteint 35 kilos, moins de la moitié. Les médecins prévoient qu'il va mourir bientôt. La compagnie d'Orléans, les chemins de fer, qui est civilement responsable, est traduite devant les tribunaux par la famille de la victime. Le médecin-chef de l'hôpital d'Angoulême, cité par la cour, présente le rapport établi par une commission composée de lui-même, de deux de ses confrères d'Angoulême, attachés à la compagnie de chemin de fer, et d'un professeur de faculté de médecine. C'est le médecin principal de la compagnie, là. Puis il y est dit, « Monsieur Gargam souffre d'une affection de la moelle épinière, appelée sclérose latérale amyotrophique, qui constitue une infirmité permanente, peu susceptible d'amélioration, capable plutôt d'évoluer progressivement et fatalement. » Alors, le tribunal admet le bien fondé de la requête déposée par la partie civile, écoutez bien, puis là, la compagnie interjette appel, puis 6 mois plus tard, la cour, faisant état d'un nouveau rapport médical, et il constate que le mal empire, la gangrène avait l'extrémité des jambes, puis là, la cour condamne la compagnie à verser à M. Gargam une indemnité qui est assez considérable à l'époque, de 60 000 francs et une rente annuelle de 6 000 francs. C'est pas les 6 000 francs d'aujourd'hui, évidemment. La mère de Gargam est une femme pieuse. Elle entreprend une neuvaine à Notre-Dame-de-Lourdes. Ne riez pas, une neuvaine. Vous savez, prier 9 jours de suite, ça a son sens. Hein? Ma mère en faisait, était exaucée, c'était extraordinaire. Elle supplie son fils, donc, d'accepter d'être conduit à Lourdes. Gargam est incroyant, je vous l'ai dit, un athée. Mais pour donner à sa mère cette suprême satisfaction, bon, il accepte, il se laisse faire. Il est d'ailleurs à demi inconscient. Le 21 août 1901, il arrive dans Lourdes. Oui, il arrive à Lourdes et il est 7 heures du matin, puis on le transporte aussitôt à la grotte. Il ne se passe rien. Ce même jour, à 16 heures, on pousse à civière sur la première rangée des malades alignés sur le parcours de la procession eucharistique. Écoutez bien, là. Une planchette tient soulevée le drap qui le recouvre. Pourquoi tenir le drap soulevé au-dessus de son corps? C'est pour éviter le frottement du tissu sur les pieds gangrenés. Au moment précis où le prêtre en soir passe devant lui, Gargam crie, se soulève. Je vais vous lire l'article du journal Daily Mail de Londres. C'est un reporter qui est certainement pas un fanatique de Marie. Il était là. Il décrit le prodige dont il a été témoin. Bon, je le lis en français. Hier, dans l'après-midi, l'hostie venait de passer devant nous. Lorsqu'un homme, étendu sur un brancard, juste en face de moi, poussa un cri inarticulé, puis j'entendis une exclamation et un sanglot d'une femme à cheveux blancs qui se tenait près du brancard. L'homme couché sur ce grabat enserrait les bords avec des mains qui ressemblaient à des griffes, tellement elles étaient maigres. Et alors, d'un mouvement convulsif, il réussit à se mettre sur son séant, c'est-à-dire à s'asseoir, évidemment. « Aidez-moi à me lever, » criait-il, pendant que de grosses larmes roulaient sur ses joues émaciées. « Je peux marcher, je sens que je peux marcher, » continua-t-il. Des mains empressées le mirent sur ses pieds, alors comme quelqu'un qui relevait de la mort, et sans autre vêtement qu'une chemise et une robe de chambre, il se tint debout. Et le journaliste du Daily Mail de Londres continue, « Laissez-moi marcher, » insista-t-il d'une voix étrange et rauque. « Entendez-le, Sainte Vierge, entendez-le, » sanglotait la vieille mère. « C'est à peine s'il a parlé depuis 20 mois. » Puis, en présence de milliers de personnes massées le long du parcours, le lambeau, ce lambeau d'humanité, avec ses jambes comme des bâtons et des pieds en plaie, fit 5 pas chancelants sur sa robe de chambre qu'on avait enlevée pour qu'il pût marcher dessus. Alors il tomba épuisé dans les bras qui se tendaient vers lui. On le soutint Il reprend force et de lui-même, il se rend au bureau des constatations. C'est le docteur Boissary, grand spécialiste et médecin de Lourdes, qui crie « L'entrée de Gargame a été un des épisodes les plus émouvants dont nous ayons été témoins. 60 médecins nous entouraient. Ils se dressent devant nous. C'est un spectre. Ses grands yeux fixes sont seuls vivants dans cette figure émaciée, décolorée. Il est chauve. C'est un vieillard. Et cependant, il n'a pas 32 ans. Le lendemain, nouvel examen. Écoutez bien, plus de gangrène aux pieds. La cicatrisation s'opère à vue d'œil. 3 semaines plus tard, Gargame a engraissé de 10 kilos. 6 mois après, il pèse 75 kilos. Il en pesait 80 avant son accident. Il est mort le 24 février 1953. Et tous les ans, il se rendait à Lourdes comme brancardier. La guérison de Gargame, ou plutôt le caractère miraculeux de cette guérison, a été évidemment contesté par les incrédules. Monsieur Schied, professeur au lycée de Gap, a tenté en 1911 de faire croire à une supercherie. Il s'était tiré des ripostes, évidemment. Ses arguments ont été par la suite repris puis arrangés de façon à attribuer à l'hystérie, l'affaiblissement extrême, puis le prodigieux renouveau de Gargame. Voyons. Comment alors expliquer la disparition subite des phénomènes hystériques après le voyage de Lourdes? Et que faut-il penser de la gangrène des pieds? Elle est prouvée? Elle a laissé quelques traces, des traces de cicatrisation? Puis l'hystérie peut-elle amener la gangrène des pieds? Et dans l'affirmative, un choc nerveux guérissant l'hystérie, peut-il du même coup instantanément guérir la gangrène des pieds? On dit aussi que Gargame a combiné une admirable opération. Il a simulé la maladie et guéri juste à point lorsqu'il a obtenu gain de cause auprès du tribunal. Mais voyons donc, il a obtenu gain de cause, mais voyant qu'il était guéri, la compagnie a refusé de lui verser les 60 000 francs puis de lui donner son indemnité de 6 000 francs. Il a tout perdu, mais il était guéri. Il était athée. Il était athée. Quant aux approches de Lourdes, sa mère lui montrant un Christ au-dessus de la montagne au début, elle le supplia de le saluer, mais il a détourné les yeux, obstiné dans son incroyance. Mais c'est après coup qu'il a été transformé, converti, et il se rendait à Lourdes comme brancardier. Et il témoignait partout du miracle dont il avait été l'objet. Voici maintenant le cas de Johannes Jørgensen. Tout le monde connaît Jørgensen dans un sens, un Danois. Je vous ai déjà parlé de lui le 29 mai 1996. C'est un très grand converti. Le 29 mai 1956, il est mort à Svendborg. À l'âge de 90 ans, c'était un des plus prestigieux écrivains de Vitissin, particulièrement de la vie de Saint-François d'Assise et de Sainte-Catherine de Sienne. Ça a eu un succès énorme après sa conversion. Johannes Jørgensen. J-O-E-R-G-E-N-S-E-N. Il avait commencé par être anarchiste et athée, puis sous l'influence de ses amis, deux convertis, le Vergade, dont je vous ai déjà parlé, et Mogens Balin. Il avait peu à peu découvert le catholicisme grâce à eux. Et hanté depuis toujours par un besoin d'infini, puis de félicité, puis de vie, comme il dit, dans un monde profond et plein de sens. Mais il avait enfin compris, dit-il, que la vie et le bonheur de l'homme ne se trouvent qu'en Dieu. Alors il a fallu, pourtant, se mettre à l'école de Saint-François d'Assise pour arriver à retirer de son âme cette espèce de mirage de l'égoïsme qui continuait à le séduire, parce qu'il a fallu qu'il se défasse de l'amour de sa propre personne puis de son passé. Puis c'est enfin le 16 février 1896, à 30 ans, qu'il a été reçu dans l'Église catholique. Hein? C'était l'anniversaire hier. Au cours de son long et douloureux cheminement spirituel, il y a quelque chose qui s'est révélé à lui, un fait. C'est la présence très proche, très très proche du Christ. Lui-même nous l'a raconté. Il se trouvait alors en Suisse, à Lucerne, et il était entré dans une église. Je vous lis ce petit texte. Le miracle eucharistique. Un prêtre avait pris sur l'autel l'ostensoir d'or, l'avait soulevé et avait béni la foule agenouillée. Et moi, aussi, je m'étais trouvé à genoux au milieu de cette foule, comme poussé à cela par une force irrésistible. Lui qui était luthérien d'origine et athée. Et dans le profond silence, dit-il, du recueillement et de la prière, j'avais senti que, à cette minute, quelqu'un était près de moi. Et depuis cette soirée de Lucerne, le feu du Christ avait brûlé dans mon cœur. Mais mon cœur n'avait pas voulu se laisser consumer par ce feu. Mon cœur avait tâché de l'étouffer, à l'éteindre, si c'était possible. Car mon cœur craignait de s'abandonner à cette flamme que je savais venir de Dieu et qui voulait remonter vers Dieu. La flamme de l'amour dont l'objet est le bien suprême. Vous savez, Jorgensen va lutter longtemps avec lui-même avant de faire le pas décisif. Vous tous qui hésitez, qui m'écoutez, n'hésitez plus. Faites le pas décisif. N'empêche que le choc de la grâce avait frappé Jorgensen de plein fouet lors de cette bénédiction du Saint-Sacrement. Et un jour, il a fini par accepter dans sa vie le feu du Christ, comme il l'appelle, allumé en son cœur par la présence eucharistique du Seigneur. Je vous ai déjà parlé d'André Frossard un an après sa mort. Il est mort le 2 février 1995, et je vous en ai parlé en 1996, le 2 février. Peut-être un peu abusif de dire qu'André Frossard a été converti par l'Eucharistie, mais n'empêche que son étonnante rencontre avec Dieu, vous la connaissez, s'est faite devant Saint-Sacrement, exposé dans la chapelle des Sœurs de l'Adoration réparatrice de la rue d'Ulm, à Paris. Il était jeune. Fils du secrétaire du Parti communiste de France. Athée de source. D'éducation. Il écrit dans « Dieu exige, je l'ai rencontré ». Tout le monde a lu ça, j'espère, d'André Frossard. Dieu existe, je l'ai rencontré. Il écrit, le fond de la chapelle est assez vivement éclairé, puis au-dessus du maître-autel, vêtu de blanc, un vaste appareil de plantes, de candélabres et d'ornements, est dominé par une grande croix de métal ouvragé qui porte en son centre un disque d'un blanc mat. C'est le style, évidemment. Il connaît pas ça. Je suis déjà entré dans des églises pour l'amour de l'art, mais je n'ai jamais vu d'ostensoir habité, ni même, je crois, d'hostie. Et j'ignore que je suis en face du Saint-Sacrement, vers lequel montent deux fils de cierges allumés. C'est pourtant en face de cet ostensoir qu'entrer à 17h10, 5h10 l'après-midi, donc dans cette chapelle, André Frossard, 2 minutes plus tard, va devenir chrétien. Dieu faisant en lui une irruption déferlante, plénière, comme il l'écrit lui-même. Irruption déferlante, plénière, qui s'accompagne d'une joie intense. Le converti ajoute que lorsque on l'a introduit dans le monde de la foi, qu'on lui a enseigné la doctrine chrétienne, il dit « Une seule chose me surprit, l'Eucharistie. Non qu'elle m'eût paru incroyable, mais que la charité divine eut trouvé ce moyen inouï de se communiquer. Cela m'émerveillait. Et surtout, que Dieu ait choisi, pour le faire, le pain qui est l'aliment du pauvre et la nourriture préférée des enfants. De tous les dons éparpillés devant moi par le christianisme, celui-là était le plus beau. Alors profitons-en, pendant ce carême, pour aller vers ce Dieu vivant qui nous est donné dans l'Eucharistie. Le Christ se donne à nous pour nous transformer en lui et nous unir à son Père dans l'unité de l'Esprit-Saint, c'est ça la messe. Profitons-en, la richesse est là. Ce qui se déroule dans nos églises et nos chapelles, vaut 100 000 fois tous les spectacles qu'on donne à la place des arts et ailleurs. Non pas que je méprise les beaux spectacles que nos artistes font et que notre orchestre symphonique de Montréal, que j'admire beaucoup, et tous nos ensembles musicaux font. Mais non, c'est superbe, c'est très beau, cette belle musique, et ce théâtre souvent très intéressant. Mais la messe, oui, c'est 100 milliards de fois plus grand et plus beau. L'un n'élimine pas l'autre. On peut aimer le théâtre et les beaux concerts.